Presque six. Vous vous souvenez qu'on a appris il y a quelques semaines le décès de la mère de Gilles Duceppe dans des circonstances absolument abominables. Oui. Elle résidait donc à la résidence pour aînés autonome Luxe Gouverneur. Et bon, pour faire une histoire courte, on en avait parlé à l'époque. Il y avait eu une alarme d'incendie qui était finalement une fausse alarme. Et donc, elle avait, comme n'importe qui entend une alarme d'incendie doit faire, elle avait quitté les lieux. Elle était sortie par la première porte qu'elle avait vue et s'était ramassée dans une espèce de cour intérieure de la résidence des gouverneurs. Et lorsqu'elle n'a pas entendu le message, en fait, qui voulait dire « Sortez pas de vos résidences, c'est correct, c'est une fausse alarme », alors elle a fait ce que tout bon citoyen doit faire. Et on doit sortir dans ces temps-là. Alors, elle sort à l'extérieur, il fait très froid, elle est en petite tenue, température ressentie de moins 35, je vous rappelle, dans cette nuit-là. Et au moment où elle a voulu rentrer à l'intérieur, finalement, la porte était barrée. Elle était barrée de l'extérieur, on pouvait seulement sortir, mais pas rentrer dans le building après. Et donc, elle s'est mise à attendre, elle s'est dit « Il y a bien quelqu'un qui va finir par voir que je suis pas là. » Ils ont fait partir l'alarme d'incendie. Il faut qu'ils vérifient que tout le monde a compris le message qu'il fallait pas sortir. Là. Normalement, si on est responsable et qu'on s'occupe bien des résidents, c'est ce qu'on fait. Et ce qui était le plus triste là-dedans, c'est que, bon, elle est décédée finalement. Personne n'est jamais venu voir qu'elle était sortie. C'est arrivé en pleine nuit. Elle a été retrouvée à 11h30 le lendemain matin. Et ce qu'on avait appris du rapport du gouverneur, du coroner après, c'est que puis j'avais lu le récit là en ondes, heure par heure. Elle s'est battue contre le froid pendant 6 heures avant de décéder. Elle a bougé, elle a continué de bouger pendant 6 heures dehors à moins 35 avant de finalement cesser de bouger. Puis c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'elle était décédée. Il y avait des caméras qui donnaient sur la cour intérieure. Elle s'est déplacée, elle essayait de se réchauffer. Elle a tenté par tous les moyens possibles de demeurer en vie. Elle s'est battue pour rester en vie pendant 6 heures. 6 heures de temps en petite tenue à moins 35 de température ressentie. C'est encore plus triste de constater, parce que tu espères quasiment dans ces situations-là que la personne va décéder le plus rapidement possible pour ne pas souffrir. Là. Elle a souffert pendant 6 heures. C'est un récit qui donnait froid dans le dos. Ça glaçait le sang, sans faire de mauvais jeu de mots. Là, c'était vraiment triste.
Le mal qu'on a quand on a une engelure en fait, puis on est habillé là, pour les conditions. Imaginez-vous cette femme-là qui a souffert aussi longtemps.
C'était vraiment, vraiment très triste. C'est ce qu'on apprend ce matin, puis c'est ce que j'espérais qu'il arrive, sincèrement, parce que c'était clairement dit dans le rapport du coroner que le décès aurait pu être évité. On apprend que la famille du CEP réclame 1,14 million $ à la résidence pour aînés autonomes à titre d'indemnisation pour les souffrances et en guise de dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux. Alors, c'est à la suite de cette dame-là qui s'appelait Hélène Rollet-Hott. C'est M. Duceppe, alors Gilles Duceppe, ainsi que ses frères et sœurs, qui réclament maintenant la somme de plus d'1 million $ en dommages et finalement en compensation pour tout ce qu'ils ont vécu. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'ils ont vécu, cette famille-là. Puis 1 million $, là, ça ne ramènera pas leur mère non plus. Là,
non, mais j'aime ça, c'est punitif. Oui. En fait, c'est une façon de démontrer que crime, il y a eu des manquements à l'intérieur de l'établissement et on n'a pas pris les mesures pour s'assurer que chacune des personnes qui est à l'intérieur et qui a besoin d'une aide, oui, OK, sont autonomes, mais ils ne sont pas là pour aucune raison non plus. On n'a pas vérifié qu'ils soient dans leur chambre après que l'alarme soit déclenchée. On le fait avec les écoles primaires, on le fait dans les alarmes de feu, on le fait, faut le faire, point.
Et pour en discuter, on va aller rejoindre Paul Brunet, le président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Brunet, bon, en premier, j'imagine que lorsque vous avez appris cette nouvelle-là, comme tout le monde, vous avez été extrêmement choqué. En lisant le récit, puis en insistant sur le fait qu'elle s'était battue pour sa vie pendant 6 heures de temps, j'imagine qu'il n'y a pas un cas, on n'est pas nécessairement plus sensible à un cas qu'à un autre quand on est président du Conseil pour la protection des malades, parce qu'on en voit à tous les jours. Mais trouviez-vous que celui-là, ce cas-là particulièrement, avait quelque chose d'encore plus triste?
Oui, mais il y en a d'autres où des gens sont morts gelés dans la région de Trois-Rivières, dans la région de Sherbrooke, il y a quelques années. Dès que vous laissez le moindrement des gens sur qui vous devriez opérer une certaine surveillance, il se peut que ce risque-là survienne. Et dans ce cas-ci, sans vouloir parler de ce cas-ci particulièrement, parce qu'il y a une mise en demeure, donc il y a un début de processus judiciaire, oui. Je suis avocat, je suis pas supposé commenter une action ou une action projetée, mais on peut parler en général. Je pense que cette cause-là va revisiter toute la notion de qui est semi-autonome puis qui l'est moins ou qui est autonome, comment ces opérations-là d'évaluation sont faites, comment après ça on essaie et on s'assure que les lieux sont je pense toujours à l'île verte, tu sais. À l'île verte, il y a un tiers des gens qui sont morts là, qui n'auraient jamais dû être hébergés là. Ils étaient grabataires, c'était pour semi-autonomes. Mais personne s'en plaint parce que souvent en région, il n'y en a pas de CHSLD d'ouvert. Ça comprend des unités où les gens sont bien intentionnés, ils vous hébergent, puis on espère qu'il n'arrivera rien. Mais cette section-là de la maison était faite en bois. Alors, on va revisiter, je pense, tout le concept d'autonomie, de semi-autonomie. Dans le cas de, qui nous occupe aujourd'hui, cette dame-là était dans un bloc semi-autonome. Semi-autonome, c'est pas autonome. Alors, quand on lit des recommandations, on s'aperçoit que ça a beaucoup de traits, tu sais, désigner une personne dont le principal mandat sera de s'assurer de la sécurité des lieux et de la surveillance des caméras.
Ouais.
Et un des commentaires qu'on a fait, c'est, on voyait la dame souffrir dehors. Mais personne qui regardait les moniteurs. Ça donne quoi d'avoir des caméras, des moniteurs, si personne est chargé de les regarder? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un débat là-dessus et je veux pas préjuger de la situation, mais j'espère qu'on va éclaircir plusieurs situations et surtout que les recommandations auxquelles, dit-on, imaginez, ça constitue quasiment un aveu extrajudiciaire, mais auxquelles recommandations du rapport du coroner les autorités de la résidence les ont accueillis favorablement et se sont déjà engagés à les mettre en place. Tu sais, ça sent l'espace pour faire mieux et les tribunaux décideront de ce qui en résultera.
Et juste pour qu'on comprenne bien la différence, parce qu'au moment où c'est arrivé, il y a plusieurs personnes qui me disaient elle habitait dans une résidence pour aînés autonomes. Ça veut dire que la surveillance, les surveillants, en fait, ceux qui travaillent à l'intérieur n'ont pas à surveiller les résidents tout le temps. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre résidence pour aînés semi-autonomes et autonomes? C'est quoi le degré
autonome,
de surveillance?
Autonome, c'est que vous n'êtes pas supposé, et là, il y a toute de la littérature là-dessus, là, mais grosso modo, l'autonomie, c'est que vous êtes capable de vaquer à vos occupations. Vous vous occupez de vous-même, vous pouvez vous laver, vous pouvez vous faire à manger, etc., etc. Vous êtes parfaitement lucide et vous ne souffrez pas de problèmes de mobilité. Semi-autonome, ben là, vous commencez à avoir certains problèmes, soit sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur le plan de la lucidité, sur le plan de la mobilité. Vous avez besoin d'aide pour être lavé, vous avez besoin d'aide pour vous faire des repas. Et là, bon, alors, là, on est dans l'autonomie, la semi-autonomie, puis éventuellement, quand vous êtes évalué par le CLSC avec une lourdeur sur le plan du handicap physique ou autre, ben là, vous êtes peut-être un candidat, une candidate pour un CHSLD avec un rapport, une évaluation qui constate l'alourdissement de votre situation. Mais des fois, on arrive autonome, on l'est encore, mais on ne l'est plus autonome. Alors là, comment on départage ça? Comment on fait évoluer les personnes qui ont été admises dans un bloc autonome, mais moi, l'information que j'ai, c'est que Mme Duceppe était dans un bloc semi-autonome.
OK. Parce que ce matin, dans le journal, on dit autonome, là, il y a peut-être...
Ouais.
Okay, oui. Donc, semi-autonome, c'est un degré de plus de surveillance, là, quand même.
Bien, en tout cas, un minimum d'encadrement. Tu sais, je dis tout le temps, vous visitez n'importe quelle ville dans le monde, quand vous sortez de l'autobus, le guide, il compte ceux qui sortent,
ben, oui.
Il compte ceux qui reviennent.
Ben oui.
Puis nous autres, on est tous autonomes. Pourquoi? Parce qu'on veut pas en échapper, puis on veut pas en perdre. Comment ça se fait qu'on fait pas ça? En CHSLD, quand vous entrez, vous identifiez, puis s'il y a un résident qui sort, il est identifié, puis il y a quelqu'un qui sait au poste que la personne est sortie. Si on est semi-autonome, il me semble qu'on devrait faire l'objet d'un minimum d'encadrement, et les recommandations parlent par elles-mêmes. Je sais pas ce que les tribunaux vont en penser, et encore une fois, là, on va laisser le temps aux tribunaux éventuellement, à moins que les parties se parlent, mais les tribunaux, et moi j'ai hâte d'avoir un jugement là, assez... élaboré pour guider puis dire exactement ce qu'on devrait faire ou pas faire. Mais encore une fois, quand ça fait l'affaire de tout le monde, je reviens à l'île verte, tout le monde était content là, de faire héberger un proche là parce qu'il n'y avait pas de CHSLD proche.
Ouais.
Puis malheureusement, quand il arrive un drame dans des lieux qui ne sont pas adaptés, ben c'est ça qui se passe. Et ces lieux-là étaient-ils adaptés pour la mère de M. Duceppe? C'est ce que les tribunaux décideront éventuellement.
Et bon, c'est sûr que quand on fait affaire avec des résidences pour personnes âgées autonomes comme ça, on paye souvent plusieurs milliers de dollars par mois. C'est des résidences qui coûtent extrêmement cher. C'est des résidences souvent qui sont privées. Est-ce que ce type de résidence-là est soumis à une réglementation gouvernementale où ils font un petit peu ce qu'ils veulent?
Non, c'est une résidence privée. Donc, il y a probablement, cette résidence-là, probablement son certificat. Comme la loi avait été adoptée, je pense, en 2013, si ma mémoire est bonne, sous la ministre Vient, la certification des résidences. Mais tu sais, la certification des résidences, là, c'est pas mal sur papier.
Ouais.
Si tu rencontres, c'est un peu comme l'agrément canadien. Mais sur le plancher, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et encore une fois, les recommandations de la coroner sont assez éloquentes sur le fait que quand on a besoin d'un minimum d'encadrement, ça prend du monde. Et ça prend du monde pour garder les moniteurs, puis ça prend du monde pour faire le décompte éventuel des gens qui sont là, ouais, puis des gens qui sont sortis.
Et M. Brunet, bon, nous, on est souvent au courant de ce type d'histoire-là quand ils font les manchettes, quand les médias en parlent. Vous, à la protection au Conseil pour la protection des malades, j'imagine qu'il y a plusieurs histoires comme ça dont vous entendez parler qui ne défraient pas tout le temps les manchettes. Est-ce que c'est plus fréquent que ce qu'on peut penser, sans que ça s'amène nécessairement à un décès, là, mais ce type d'événement-là dans des résidences pour personnes âgées, que ce soit CHSLD ou résidences privées, est-ce que ça peut arriver assez souvent?
Bien, selon un décompte que les médias eux-mêmes ont fait récemment, depuis à peine une dizaine d'années, il y a au moins 10 personnes qui sont mortes de froid, abandonnées, oubliées, dans des lieux où on aurait dû avoir un minimum d'encadrement pour ces personnes. Alors, c'est pas marginal comme nombre, et je pense qu'il faut se pencher là-dessus. C'est sûr que les résidences privées font un travail, qu'il y a des gars et des filles qui les opèrent, qui sont bien intentionnés, mais quand on a une charge, une responsabilité d'un minimum d'encadrement, il me semble qu'on devrait avoir plus de responsabilités. Je veux pas faire de comparaison irrespectueuse, mais ce genre de situation où vous abandonneriez un animal, un chien dehors, vous pourriez encourir des amendes jusqu'à 60 000 $ selon la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux.
Ouais.
Alors c'est très sérieux. Et pour les humains, il me semble que ça devrait être encore plus exigeant.
Oui, effectivement, là, ça c'est certain. Monsieur Brunet, est-ce que pour vous, c'est une, sans dire une bonne nouvelle, mais quand les familles décident de poursuivre, quand arrive un événement comme ça, puis que ça sera en cours, puis qu'il y a un risque que les résidences doivent payer un gros montant d'argent, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle pour faire avancer les choses, le fait qu'ils doivent se responsabiliser en déboursant un gros montant, parce que là, c'est quand même plus d'un million qu'ils auraient à donner à la famille du CEP si jamais ils gagnaient, là?
Moi, ce qui m'importe, outre le fait qu'au Québec, au Canada, on a le droit de demander des dommages quand on sait que notre auteur, notre parent a souffert. On a le droit de demander. C'est correct. Mais sur le strict plan de l'avancement des situations puis de la sécurité, moi, j'ai hâte qu'on éclaircisse certaines choses, particulièrement sur les résidences semi-autonomes, où je pense qu'il y a des précisions à donner et il y a des exigences à poser. Et j'espère que dans une décision éventuelle, les tribunaux nous éclaireront tous pour que, avec tout le caractère bienvenu des gens qui décident d'opérer ces lieux-là, je veux dire, c'est une grosse job, mais qu'on sache que avec ça viennent des responsabilités importantes et que le loyer, c'est une chose, le prix important que l'on charge, surtout dans les lieux luxueux comme ceux-là, ben font encourir, là comme ailleurs, des responsabilités. On a beaucoup de plaintes de lieux où les gens ne reçoivent pas nécessairement les services qu'on leur a dit qu'ils leur offriraient, mais on n'ose pas se plaindre parce qu'il n'y a pas d'autre place, puis on veut pas faire de troubles, puis on veut pas... Alors, il y a beaucoup de retenue, mais dans ce cas-ci, évidemment, on a perdu notre mère, alors on est moins gêné, puis je pense qu'on a raison de le faire.
Monsieur Brunet, merci
mais
beaucoup.
Vous avez raison, il y a beaucoup d'endroits où les proches sont gênés de prendre un recours. Fait que des fois, on le fait pour eux. Des fois, on va écrire au nom du conseil pour dire, écoutez, là, dans vos lieux, ça pue, dans vos lieux, c'est pas sécuritaire, puis faites quelque chose. Fait que on parle pas de personne, mais on parle des lieux en général. Puis il y a des résidences qui l'acceptent, il y en a qui sont pas contents de nous autres, mais c'est là de mon frère Claude, et pas pour rendre les opérateurs contents.
Ouais.
C'est pour améliorer le bien-être, puis surtout, le traitement digne des gens qu'on y accueille.
Ça, c'est certain. Monsieur Brunet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, madame.
Merci. Maître Paul Brunet est président du Conseil pour la protection des malades. Moi, je suis très contente que la famille Duceppe décide d'aller de l'avant avec une poursuite. Il faut savoir que ça demande de l'énergie, ce type de poursuite-là. Ça demande de l'argent aussi, parce qu'il faut payer un avocat souvent. Et ça demande beaucoup de temps, là. Et c'est pas toutes les familles qui vont décider d'aller de l'avant avec une procédure judiciaire.
Ou qui ont les moyens.
Mais je pense que ça envoie un message très clair. S'il faut que la résidence Luxe-Gouverneur paie plus $1 million à la famille Duceppe, j'espère, en tout cas, que c'est le type d'erreur qui se reproduira plus jamais, puis qui vont être doublement prudents à l'avenir et s'envoie un message très clair aux autres résidences aussi.
T'as pas besoin d'un point 14 millions pour faire un petit bond en arrière et dire oh là là, que ça vient de nous mettre un peu dans le pétrin de payer autant d'argent. Une résidence comme ça, après avoir payé 1,14 millions, si c'est vraiment la somme finale, peut-être qu'elle va fermer aussi, mais en même temps, à la place de la famille, je dois dire que je me battrais jusqu'à la fin de ma vie pour l'honneur de ma mère.
Ah non, c'est trop triste ce qui est arrivé. En même temps, je comprends les familles qui n'ont pas l'énergie ou l'argent d'aller de l'avant avec une poursuite. Oui. Mais si eux ont les moyens de le faire et veulent le faire aussi, je pense que ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes dans l'avenir. Si vous voulez nous écrire sur ce sujet-là, 25 226, il est 8h21.